La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Deux siècles d'une épopée technologique qui a totalement bouleversé l'histoire des hommes, depuis les pionniers de la machine à vapeur jusqu'au projet Hyperloop d'Elon Musk, en passant par le TGV, la saga du rail a entièrement transformé nos vies. Ce soir, France 5 propose dans la case Science Grand Format un documentaire inédit sur les maîtres du rail. L'occasion de se rendre dans le berceau du chemin de fer en Angleterre, de traverser les États-Unis à bord du transcontinental et de se souvenir de l'aérotrain, ce train aéroglisseur qui aurait pu naître en France bien avant le train à grande vitesse. J'attendais maintenant vos questions et vos messages pour parler chemin de fer et technologie. Vous pouvez nous rejoindre sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une question. Manger bio protège-t-il vraiment du cancer?
Oui, selon une vaste étude publiée il y a quelques jours, les gros consommateurs de bio auraient 25% de risque de cancer en moins que les autres. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires, un vif débat autour de cette étude. On va en parler
dans un instant
avec Emmanuel Quesguyot.
Voilà, l'une des co-auteurs de cette étude. Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission aujourd'hui, préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà les maîtres du rail cet après-midi dans l'émission pour parler donc de la grande saga du chemin de fer avec mes invités que je salue, les ingénieurs Mathieu Barrault et Philippe Hérissé. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et bienvenue Mathieu Barrault pour ce documentaire donc sur France 5. Vous avez fait le tour du monde pour raconter les grandes évolutions techniques du chemin de fer et vous avez même testé la toute première locomotive à vapeur en Angleterre, c'est ça hein?
Ah oui, ça c'était un grand plaisir. Alors moi j'ai toujours joué avec des machines à vapeur quand j'étais petit, je suis tombé dedans quand j'étais petit, on va dire.
Ouais.
Je m'amusais avec ces jouets. Et puis, en Angleterre, on a eu la chance de rencontrer une reproduction de la machine de Trevithick, qui est un ingénieur anglais et qui a fait la première locomotive, en fait, l'une des premières locomotives réellement opérationnelles.
À quelle vitesse elle se déplace?
4, 5, 6 km/h. Ouais, l'idée, c'était de remplacer le cheval. Donc, elle ne va pas tellement plus vite qu'un cheval. Mmh. Et voilà, moi, j'ai eu la chance de la pratiquer.
Eh bien, on va en discuter avec vous dans un instant. Philippe Hérissé, le train de demain. Alors là, on va vraiment de l'autre côté. Ça va ressembler à quoi, a priori? Ça va beaucoup évoluer après le TGV?
Alors, le train de demain ne sera pas foncièrement différent de celui que l'on connaît. Mmh. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, le principe même du chemin de fer, qui est le contact d'une roue d'acier sur un rail d'acier, en fait, ce principe, on est très très loin d'avoir épuisé toutes ses possibilités. Il suffit de se souvenir, par exemple, du dernier record de vitesse sur rail, c'était en 2007, et on a atteint la vitesse de 574,8 km/h, et on était encore loin, en fait, d'avoir épuisé les ressources du contact roue-rail. Donc en fait, le chemin de fer tel qu'on le connaît aujourd'hui a encore de très beaux jours devant lui.
Et on se retrouve dans un instant pour en discuter avec les questions et les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Manger bio protège-t-il du cancer? Les résultats publiés au début de la semaine par une équipe française pointent du doigt les risques des pesticides dans notre alimentation.
Manger bio, c'est bon pour la santé, c'est désormais prouvé scientifiquement.
L'étude a comparé les risques de cancer chez des individus qui mangent au moins 50% de bio par rapport à ceux qui n'en consomment jamais. Résultat, une réduction du risque de cancer de 25% chez les consommateurs de bio.
Alors, on a beaucoup entendu ces phrases tout au long de la semaine. Produits bio, résidus de pesticides, risque de cancer, sujet donc à la une de la science. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invitée.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes avec Emmanuel Quesguyot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'INRA dans l'équipe épidémiologie nutritionnelle de l'université Paris 13 et vous êtes co-auteur de cette étude dont les résultats font polémique depuis 3 jours. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le principe de cette étude qui a duré 7 ans au total?
Alors, cette étude est une étude de cohorte, c'est-à-dire que l'on recrute des volontaires à qui on pose énormément de questions sur leur mode de vie, sur leur santé, sur leur régime alimentaire également, avec des questions très précises sur ce qu'ils consomment. Et ensuite, ces sujets vont être suivis pendant une durée relativement longue. Et on va collecter des informations sur tous les événements de santé, donc dans le cas présent, les cancers, au cours du suivi. Et ensuite, on va analyser nos données en comparant les caractéristiques sur l'exposition qui nous intéresse en fonction du développement ou non de pathologie.
Et donc lorsqu'on le regarde, on regarde votre étude, lorsqu'on regarde les résultats, le tableau qui résume le nombre de cancers en fonction des groupes de consommateurs de bio, gros consommateurs, consommateurs occasionnels ou ceux par exemple qui n'en consomment pas du tout, on voit un résultat qui saute aux yeux. On a vraiment l'impression que le risque de cancer est beaucoup plus faible chez les gros consommateurs de bio. Mais il y a d'autres résultats sur des cancers spécifiques.
Oui, tout à fait. On a une réduction de 25% du risque de cancer toute localisation avec des associations plus particulières sur le risque de cancer du sein en post-ménopause avec une réduction de 34% et le risque de cancer de lymphome non hodgkinien avec une réduction de 75% du risque.
Donc ça, c'est ce qu'on voit dans votre étude. Mais pour expliquer ces résultats, il y a plusieurs solutions. On pourrait imaginer, par exemple, que ce sont des personnes qui sont également plus sensibles aux messages de santé, font plus de sport, ont de meilleures conditions de vie. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte.
C'est la question des biais, voilà.
Tout à fait. On a plusieurs hypothèses pour expliquer nos résultats. Évidemment, la première hypothèse qui est la plus évidente, ce sont les caractéristiques particulières des consommateurs de bio. Ils pratiquent plus d'activités physiques, ils fument moins, ils boivent peu d'alcool, ils ont un régime alimentaire qui est globalement plus sain, avec des consommations plus élevées de produits végétaux, des consommations réduites en viande, etc. Mais ces facteurs sont pris en compte dans les modèles épidémiologiques, c'est-à-dire que on réalise un ajustement sur ces facteurs qu'on appelle des facteurs de confusion, de façon à essayer de comparer ces petits consommateurs de bio et ces grands consommateurs de bio, tout étant égal par ailleurs.
Donc en prenant en compte ces facteurs de confusion, vous arrivez quand même sur un groupe de gros consommateurs de produits bio qui a moins de cancer. Et là, le lien entre le produit bio et le cancer, il pourrait y avoir par exemple l'idée que ce serait une meilleure qualité nutritionnelle des produits bio. Pourtant, vous, vous faites l'hypothèse la plus probable, vous dites que l'hypothèse la plus probable, c'est les résidus de pesticides.
Actuellement, les différences nutritionnelles entre les produits bio et les produits conventionnels sont assez peu documentées dans la littérature. Il y a quelques données, par exemple, qui documentent des teneurs en vitamine C de la pomme de terre plus élevées, des teneurs en caroténoïdes, des fruits et légumes qui sont plus élevés dans les produits bio. Mais on ne connaît pas à l'heure actuelle les conséquences physiologiques de ces différences de teneurs. Puisqu'évidemment, ces différences de teneurs doivent être prises en compte en fonction du niveau de consommation des individus. Et donc, la modification du statut physiologique qui permettrait éventuellement de protéger la santé, pour l'instant, il n'est pas connu.
Donc, l'hypothèse des pesticides, des résidus de pesticides, elle est plus argumentée, elle est plus probable?
Il y a plus de données dans la littérature concernant un rôle potentiellement délétère sur chez l'individu vis-à-vis des pesticides, avec notamment des hypothèses sur la carcinogénèse liée à ces molécules. Il y a beaucoup de molécules sur des modèles animaux et il y a aussi des molécules dans les populations qui sont exposées professionnellement, en particulier les agriculteurs.
Donc avec cette étude, on le comprend bien, vous ne pouvez pas désigner un coupable. Ce n'est pas une étude qui permet de faire un lien de cause à effet en fait.
Absolument. Notre étude est une étude d'observation, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'observer des comportements. On n'est pas dans de l'expérimentation et donc on observe des associations. C'est un peu plus qu'une corrélation dans le sens où on a pris en compte les fameux facteurs d'ajustement, mais on ne peut pas parler de cause à effet dans ce type d'étude d'observation.
Et pourtant, on sent bien l'amalgame quand même qui est fait immédiatement dans l'interprétation justement de cette étude. Et c'est là tout le problème, parce qu'on lit tout de suite « manger bio réduit drastiquement le risque de cancer ». C'est ça qu'on voit et qu'on entend en ce moment.
Tout à fait. Pour répondre de manière précise à cette question, il faudra mettre en œuvre des études expérimentales, c'est-à-dire des études où on obligerait, entre guillemets, des gens à manger bio et des gens à ne pas manger bio et à les suivre pendant des dizaines d'années pour voir qui tombe malade.
C'est compliqué à mener.
C'est très compliqué, d'autant plus que l'étude de référence, c'est l'essai randomisé en double aveugle. Et bien évidemment, quand les gens mangent, c'est pas en double aveugle, ils savent ce qu'ils mangent. Donc ça, ce sont des études qui, sur le plan humain et financier, seraient très coûteuses. Ouais. Et donc les études expérimentales sont quasiment irréalisables dans ce domaine.
L'une des critiques aussi qui vous est adressée, c'est qu'il y a quand même eu des études épidémiologiques qui ont été faites avant, qui elles ne montraient pas un lien aussi fort, une association aussi forte entre la consommation de bio et une réduction du risque de cancer.
Aujourd'hui, en termes d'études d'observation en épidémiologie, il y a eu une seule étude qui a étudié cette relation. C'est une étude anglaise qui est parue en 2014. Et la question qui portait sur l'exposition à la consommation bio était beaucoup moins précise que celle que nous avons utilisée. Nous avons utilisé trois modalités pour 16 groupes alimentaires différents, alors que cette étude utilisait une question qui était générale sur tout le régime alimentaire.
Parmi aussi alors les critiques ou les points qui semblent être soulignés dans votre étude, on a aussi vu qu'il y avait un biais de recrutement. Vous le disiez, les gens sont recrutés, ce sont des gens qui sont volontaires, qui sont sensibilisés de fait à l'alimentation.
Tout à fait. Les études de cohorte sont basées essentiellement sur le volontariat, car on ne peut malheureusement pas obliger les personnes à être impliquées dans une étude. Donc ça a des conséquences en termes de profil des personnes que l'on regarde. Ce sont des gens qui sont un peu plus éduqués. On a beaucoup plus de femmes parce qu'on est sur une cohorte qui porte sur la nutrition et les femmes sont beaucoup plus sensibilisées à ces thématiques. Donc ça, effectivement, ça génère un biais de sélection dans la population qu'on étudie. Toutefois, la population qui est présente dans notre étude existe dans la vie réelle. Et donc, on peut penser que la relation qu'on observe est sous-estimée car il nous manque des gens qui mangeraient très mal.
Emmanuel Quesguillot, merci beaucoup.
Et beaucoup de réserves, donc en tout cas beaucoup de recul sur les résultats.
Oui, tout à fait. Il faudra encore
vous-même qui êtes co-auteur de l'étude, vous le dites, attention à la façon de les interpréter.
Il faudra encore beaucoup d'études avant d'arriver à un consensus scientifique et il faut qu'il y ait des résultats cohérents dans d'autres contextes.
En tout cas, si on en juge par les réactions très nombreuses sur les réseaux sociaux, ça intéresse évidemment beaucoup la population de pouvoir en savoir plus sur ce qu'on mange et le lien évidemment en rapport avec la santé. Donc il faut poursuivre les études dans ce domaine.
Exactement.
Merci beaucoup Emmanuel Quesguillot. Vous étiez l'invité de la Une de la Science aujourd'hui. Caroline, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une épave de 2400 ans retrouvée au fond de la mer Noire. Des chercheurs britanniques et bulgares ont découvert un bateau grec quasiment intact à plus de 2 km de profondeur avec son mât et son gouvernail. Cette épave est l'une des plus anciennes et mieux conservées jamais retrouvées. Cette découverte est un heureux hasard. À l'origine, les scientifiques étudiaient la variation du niveau des mers dans la région lorsqu'ils sont tombés sur le bateau échoué. Avec cette épave, les archéologues espèrent en apprendre beaucoup plus sur la navigation et la construction navale à l'époque antique. Un internet 100 fois plus rapide, on en rêve. Des chercheurs australiens ont découvert une façon de multiplier la vitesse d'internet par un facteur 100 grâce à une invention qui pourrait révolutionner les réseaux de fibres optiques. À l'aide d'un nouveau capteur, il serait désormais possible d'analyser la rotation des ondes lumineuses, ce qui permettrait de capter bien plus d'informations à partir des signaux lumineux émis par les fibres optiques. Sachant que ces fibres servent de base aux câbles des fournisseurs d'accès à internet, certains y voient donc l'occasion de doper la vitesse des échanges d'informations. Et puis le Festival Paris Science, ça commence demain. Au programme de cette 14e édition, des documentaires, des courts-métrages et même des programmes en réalité virtuelle sur des sujets d'actualité. Biodiversité, épopée spatiale, manipulation génétique ou intelligence artificielle. À noter que 6 séances seront spécialement dédiées aux familles et que c'est entièrement gratuit. Rendez-vous donc jusqu'au 31 octobre au Muséum National d'Histoire Naturelle ainsi qu'à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Le programme complet de Paris Science est disponible sur leur site parisscience.fr en lien sur la tête au carré. La grande saga du rail, dans un instant, c'est le dossier. Les Oxalis, Charlotte Gainsbourg.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, Les Maîtres du Rail, c'est donc un documentaire de Gabriel Martiarena et Emmanuel Sudre que vous pourrez voir ce soir à 20h55 sur France 5 dans ce rendez-vous Science Grand Format. Il raconte toute la saga du chemin de fer depuis la naissance de la machine à vapeur jusqu'au train de demain, en passant bien sûr par le TGV. Mathieu Barrault, vous êtes ingénieur et professeur agrégé de construction mécanique à l'IUT de Cachan. C'est vous qui incarnez justement dans le documentaire cette grande saga. Et puis Philippe Hérissé, vous êtes ingénieur et journaliste à la vie du rail et vous intervenez également dans le documentaire. Et vous avez publié « Les 100 trains qui ont changé la France » aux éditions « La vie du rail ». Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « L'attaque ». Mathieu Barrault, je crois que c'est la première fois qu'on parle de train finalement dans cette émission. Et quand voit le documentaire, finalement ce qui est étonnant, c'est qu'on réalise à quel point nous sommes viscéralement attachés à ce moyen de transport. Il y a quelque chose avec le chemin de fer qui est vraiment tout à fait spécial. C'est une technologie qui est ancré dans notre vie quotidienne maintenant. Hein.
Oui, je dirais particulièrement en France, où on a en plus un transport passager avec le TGV qui est assez à la pointe et qui a été complètement intégré par les Français. C'est un succès énorme. Et effectivement, moi j'ai eu la chance, via ce documentaire, de revenir un petit peu, de prendre du recul là-dessus, sur quelque chose qu'on prend tous les jours et qui est assez commun finalement, et de voir à quel point ça peut modifier nos sociétés. Ça, je ne l'avais pas percuté avant de faire le documentaire.
Ouais. Philippe Hérissé, alors évidemment le documentaire il est chronologique, hein. Il part vraiment des tout débuts de la machine à vapeur jusqu'à ces trains du futur avec l'Hyperloop par exemple d'Elon Musk, hein, ce projet-là. Mais on reste scotché, c'est-à-dire qu'on attend que les saisons passent les unes derrière les autres pour arriver justement à ces trains qui font notre vie aujourd'hui. Hein.
Mais les trains ont toujours fasciné en fait. Le train c'est le mouvement et le mouvement c'est la vie. C'est certainement pas un hasard si les frères Lumière, en 1885, ont justement choisi l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat pour tourner le tout premier film de l'histoire du cinéma. C'est le poète Guillaume Apollinaire qui disait « Crains qu'un jour, un train ne t'émeuve plus ». Et le fait est, qui pourrait prétendre être totalement insensible à la magie du rail ? Alors, cela dit, si on revient sur des aspects plus pragmatiques, c'est vrai que le chemin de fer a de quoi passionner. Il a déjà de quoi passionner par les multiples systèmes qu'il met en œuvre pour satisfaire les deux challenges fondamentaux que sont la sécurité, qui est la priorité fondamentale de tous les systèmes ferroviaires dans le monde, et la régularité, à la fois au sens de la ponctualité et au sens de la régularité dans la performance. C'est en cela que le chemin de fer est réellement passionnant.
Mathieu Barrault, justement, cet attachement, il n'est pas le même en Amérique, par exemple, hein, où évidemment les citoyens américains ou canadiens prennent beaucoup moins le train que nous ici en France.
Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Quand on est allé tourner aux États-Unis, j'ai eu la chance d'interviewer des gens dans les trains. Et je leur ai dit, la vision qu'on a, nous, depuis la France, pour nous, les États-Unis, c'est l'avion. Vous vous déplacez toujours en avion. Et j'ai une jeune femme qui m'a fait cette réponse que je trouve vraiment emblématique de la vision du train aux États-Unis. Elle dit oui, on se déplace en avion, mais on voyage en train. Et en fait, c'est très fort. Ils ont quelque chose de très ancré. Le train a été très important aux États-Unis pour la constitution de la nation. On le verra peut-être plus tard.
Oui, on va en parler. Ouais.
Et ils ont quelque chose un attachement viscéral à ce train pour découvrir leur propre pays.
Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut du temps en plus hein, pour traverser les États-Unis d'est en ouest, par exemple, avec des trains extraordinaires, parce qu'ils ont ce fameux train panoramique, par exemple, qui traverse les Rocheuses.
Oui, le California Zephyr.
Et qui est fabuleux, quand même.
Très beau nom, en plus. Oui, ben, en plus, ça a été un train vraiment fondamental dans l'histoire de l'Amérique, chose que j'ai aussi découvert à travers ce documentaire, quand on l'a fait, parce que c'est une vision... Nous, c'est tellement ancré dans notre quotidien, le train en France... Ouais. On ne voit plus en fait ce que ça a amené à nos sociétés. Et ça, c'était très intéressant de le redécouvrir, outre les aspects techniques qui me passionnent. Mais ces aspects-là, l'influence du train sur la société, quelque chose de très fort en fait.
Allez, c'est ce qu'on voit justement dans ce documentaire. Alors l'histoire commence en Angleterre, hein, puisqu'on a justement là-bas la première, toute première machine à vapeur, extrait justement de ce film sur les maîtres du rail.
C'est la première machine à vapeur à avoir jamais roulé sur des rails. Elle a inspiré toutes les machines qui sont venues après elle, mais celle-ci fut la toute première. Le foyer est là, et autour, il y a une chaudière remplie d'eau. Lorsque le feu est assez chaud, il transforme l'eau en vapeur.
La chaudière d'une locomotive à vapeur est constituée d'un foyer dans lequel est brûlé du charbon. Les fumées chaudes du foyer parcourent un tube en forme de U immergé dans un réservoir d'eau. Portée à ébullition, celle-ci se transforme en vapeur qui pénètre ensuite dans une chambre étanche, le cylindre. La pression générée par la vapeur exerce alors une force sur un piston et le met en mouvement. En bout de course, un système permet l'inversion du cheminement de la vapeur dans le cylindre. Le piston est ainsi animé d'un mouvement de va-et-vient continu, permettant d'entraîner la bielle, une tige articulée qui transmet le mouvement aux roues.
L'idée, c'était de remplacer un cheval. Un cheval qui tire une charge d'une tonne marche à 6 km/h. Et il voulait faire quelque chose d'équivalent. Donc on suppose que cette machine faisait du 6 km/h.
Voilà, et on la doit à un homme, Richard Trévithick, Mathieu Barrault. Hein, c'est vraiment l'un des tout premiers génies, finalement, du rail.
Alors, bon, moi je suis ingénieur, alors j'ai toujours du mal avec le génie. En général, c'est rarement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ce qui est fort dans ces gens-là...
L'idée était géniale, en tout cas.
Oui, l'idée est géniale. Ouais. Mais ce qui est fort dans ces gens-là, c'est qu'à un moment, ils font une synthèse de connaissances. C'est rarement eux qui inventent tout. La machine à vapeur existait avant Trévithick. Il a d'abord fallu inventer cette machine à vapeur. Il faut se rappeler qu'avant les machines thermiques, il y avait la force motrice, c'était essentiellement les animaux et les bras et les jambes des humains. Donc, première brique élémentaire, inventer la machine à vapeur. Et puis, comprendre l'intérêt du contact d'une roue en acier sur un rail en acier. Ouais. Et il se trouve que Trévithick, qui est un jeune ingénieur qui travaille dans une mine, voit à la fois des machines à vapeur qui servaient à l'époque au pompage de l'eau dans la mine, et voit des chariots de charbon qui sortent de la mine. Et puis comme le sol des mines était un peu irrégulier, on mettait des rails au début en bois, puis après en métal. Et il se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, si je mets un moteur à vapeur sur un chariot avec un contact roue-rail, je vais inventer une machine qui va permettre de remplacer les chevaux. Et c'est comme ça que ça commence, et c'est ça la synthèse géniale en fait. La partie géniale de Trévithick, c'est ça, c'est cette idée de base.
Philippe Hérissier, donc tout ça va évidemment évoluer. Il y a même des Français qui ont joué un rôle important dans l'amélioration finalement de ces techniques.
Oui, tout à fait. On pense par exemple... un peu plus tard, pour la vapeur, à André Chapelon, qui a été un grand ingénieur, qui a fait progresser grâce à une amélioration en utilisant au mieux les possibilités de la thermodynamique, d'améliorer considérablement les performances de la locomotive à vapeur. Mais ce que disait à l'instant Mathieu Barrault est tout à fait pertinent, à savoir que effectivement, il est souvent difficile d'isoler des noms en particulier, et quand une révolution se passe dans le domaine ferroviaire, eh bien, en fait, c'est souvent l'agrégation d'un certain nombre de petites découvertes qui ont été faites. Lorsque le TGV est arrivé, par exemple, on était un petit peu dans cette situation-là. Il y a eu un certain nombre d'améliorations considérables qui avaient été faites en termes d'électronique de puissance, d'électronique de commande, de meilleure maîtrise, en fait, justement, du fameux contact roue-rail qui est quand même le prodige du chemin de fer, puisque grâce à ce contact rail, on peut finalement déplacer, mettre en mouvement des charges avec très très peu d'énergie. Hein. Au début du TGV, le calcul avait été fait et on avait dit à l'époque, en 1981, que la consommation par voyageur pour un trajet entre Paris et Lyon, à 260 km/h à l'époque, c'était la consommation d'un vélomoteur Solex. Donc finalement, fort fort peu. Et le TGV a été l'exemple même d'une révolution à partir un grand nombre d'améliorations qui avaient été faites dans les 10 années qui précédaient.
Bill nous écrit sur franceinter.fr. N'oubliez pas de parler de Marc Seguin, descendant des frères Montgolfier, inventeur de la chaudière tubulaire qui a fait faire un grand bond en avant au train, Mathieu Barrault,
énorme. C'est vrai. Si on revient un peu sur cette histoire de briques élémentaires, je vous ai dit, la première, c'est vraiment l'invention du moteur thermique à vapeur. L'observation du fait que quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole, elle fait bouger le couvercle, on sent bien qu'il y a une force potentielle. Ça, c'est Denis Papin, le premier, qui le découvre un petit peu. Mmh. Et puis ensuite, quasiment tous les éléments sont là. Il suffit d'autoriser le déplacement de ce couvercle dans une grande casserole plus grande qu'on appelle un cylindre. Et on a un moteur, c'est-à-dire au sens latin du terme, quelque chose qui met en mouvement. Et ça, c'est la chose essentielle. C'est-à-dire qu'on a un moteur qui marche à partir de chaleur, qui va pouvoir remplacer ce qui mettait en mouvement les choses avant, qui étaient les chevaux, les hommes et autres animaux. Et première brique élémentaire. Deuxième brique élémentaire, mais absolument fondamentale, je rejoins Philippe Hérissier là-dessus, c'est le contact roue-rail. Alors là, c'est un saut technologique gigantesque dans l'histoire de l'humanité. Il faut se rendre compte un peu qu'une roue en acier sur un rail en acier, c'est 500 à 1000 fois moins d'énergie à dépenser pour déplacer la même charge qu'un traîneau. 500 à 1000 fois moins. Il n'y a pas eu dans l'histoire de l'humanité beaucoup de sauts technologiques à ce point-là. Et donc la fusion des deux avec Trévithick qui invente la locomotive, on a on remplace, ça y est, le cheval, mais à l'époque, on a un percheron, on va dire, on remorque des charges très lourdes. Mmh. C'était vraiment pour remplacer le cheval dans les mines. Hein. Et il a fallu attendre, effectivement, Marc Seguin, un Français, qui a l'idée, c'est pas une invention de sa part, mais qui a l'idée de créer une chaudière tubulaire qui permet de booster, en fait, la production de vapeur. Et là, le cheval se transforme en coursier. C'est-à-dire que, d'un seul coup, on a plus de vapeur, on peut augmenter les puissances, et là, on fait un bond en vitesse, qui lui aussi est absolument remarquable, puisque la vapeur, en gros, ça multiplie par presque 10 à 20 la vitesse moyenne de déplacement des humains. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a fait un tel saut.
Et ce sont les maîtres du rail, on en parle avec vous cet après-midi, et avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr.
Left wide open, but I took the other. There were shouts and screams, and me, well, I was arbitrator. Sat myself in between he and his replacement mother. He seemed to be so briefly my good French brother, but the friendship is no longer on. Jean is going. But to put my loyalties up for adoption. And it seems to be to me that weed leaves lies forgotten. And we used to smoke those leaves oh so very often. Often and for very long. His nose could smell that I was smitten with that girl from across the road. You see, I was love bitten. He'd tell me that he had my back and then my spine would stiffen. But I cursed when I learned this word weren't really worth a pittance. Both of them had led me on. Motivation to inspire him to be kind. I took a mental notation. These lies, no crimes of mine. My truths are on rotation. To be wise, I knew he'd provide all the right quotation. But his wisdom, it was just a con. So Jean is going.
Janice Gunn avec Elle est Salami.
La tête au carré sur France Inter.
Bonjour Fred.
Bonjour Mathieu.
Dis donc mon vieux, j'ai une boîte cuite, alors je vais te laisser ma machine.
Hein. Ben si elle est cuite, c'est que tu l'as pas graissée.
Comment je l'ai pas graissée? Ben dis donc, je paye assez l'huile tous les mois, seulement qu'est-ce que tu veux? La Lison, elle est gourmande. Alors,
la Lison, qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est ma machine.
Qu'est-ce que t'as dans ton panier?
Moi j'ai une boîte de cassoulet, t'en veux?
Les conserves, ça abîme l'estomac. Marie-toi, mon vieux, marie-toi.
Oh, je te remercie, je suis déjà marié avec la Lison. Moi, ça me suffit, comprends-tu?
Une locomotive. Nous voilà mariés avec une locomotive, maintenant.
Bon, allez, au revoir les gars. Hein.
Voilà un extrait de La Bête humaine, Jean Gabin dans le rôle du mécanicien amoureux donc de Lison, sa locomotive, adapté bien sûr du roman d'Émile Zola, et pour parler des maîtres du rail, nos invités Mathieu Barrault et Philippe Hérissé, avec dans ce documentaire aussi des amoureux du train, mais c'est incroyable, tous ces gens que vous avez rencontrés, mais qui sont viscéralement là aussi attachés, et qui vont jusqu'à essayer de remettre en marche de vieilles locomotives par exemple, hein.
Moi, je les comprends tout à fait.
Mathieu Barraud.
Quand j'étais petit, je jouais avec des machines à vapeur. Et quand je me suis retrouvé sur la locomotive, j'avais les mêmes odeurs, les relents de vapeur, de
le bruit,
l'odeur
le
de
son. Cha...
Ouais, le son.
Le son, bien sûr.
Tout, c'est-à-dire que tous les sens sont mobilisés. Et effectivement, c'est absolument magnifique. Une Pacifique, c'est un objet technique magnifique. Très bien décoré. C'est, on n'a plus l'habitude dans notre monde moderne, on a un peu évacué la technique cachée sous des carénages. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit tous les rouages de la machine, on voit la mécanique en mouvement, et c'est ça qui est absolument passionnant.
Donc la Pacific Vapeur, le Pacific Vapeur Club, hein, qui a pu remettre en marche et remettre les mains dans le cambouis, hein, pour le coup.
Alors hein. Là, il faut, et en plus, il faut imaginer l'investissement de ces associations qui est absolument énorme, puisque remettre en route une machine comme ça, ça demande des centaines d'heures de travail, et quand ils font des déplacements avec, il faut prévoir la logistique parce que c'est des machines qui consomment 1,5 tonne de charbon à l'heure, 10 à 15 tonnes d'eau à l'heure, je crois. Donc, ils ont des problématiques toutes simples du style, quand ils vont à Nantes avec la machine, eh ben, il faut prévenir les villages à l'avance parce que sinon, ils vident les châteaux d'eau. Donc, c'est énorme comme organisation pour réussir à faire marcher ces machines.
Ouais. Ce qui fait vapeur. Que Philippe Hérisset, justement, il y a un moment où c'était plus tenable, finalement, d'alimenter ces locomotives avec du charbon. C'était plus possible.
Oui, il y avait aussi un problème de productivité. Il faut savoir qu'une locomotive à vapeur, ça requiert deux agents de conduite. Le mécanicien qui conduit effectivement le train, et le chauffeur dont le rôle est d'alimenter en charbon le foyer et de surveiller la pression d'eau dans la chaudière. Et en plus, comme ces machines étaient fragiles, bien souvent, il fallait utiliser des équipes titulaires, c'est-à-dire que une équipe avait sa propre machine. Lorsque l'équipe était au repos, à ce moment-là, la machine ne roulait pas. En plus, il fallait de nombreuses heures pour préparer une locomotive à vapeur avant qu'elle ne soit en pression. Et donc, en termes de productivité, il est évident qu'on arrivait, véritablement à une limite.
À quel moment on a vu la dernière locomotive à vapeur en France ?
Oh, la dernière locomotive à vapeur circulant donc en service régulier avec des voyageurs. Ce devait être en 1973, je crois, sauf erreur, et c'était sur la région d'Auray, en Bretagne. C'était une 141R, ces machines qui avaient été construites par les Américains juste après la guerre et qui étaient entrées en service pour compenser toutes les pertes de locomotives pendant les hostilités.
Allez, on va les écouter justement, ces amoureux fous du train et de la locomotive à vapeur, avec donc ce redémarrage qu'ils ont effectué il y a quelques mois. Moi à peine, hein, puisque vos caméras ont pu tourner ce moment historique.
Pour faire revivre cette machine d'exception, Alain et tous les membres du Pacific Vapeur Club travaillent d'arrache-pied depuis près de 10 ans. Une aventure sur le point d'aboutir avec la première remise en chauffe de la Pacific.
Là, on est prêt à lui faire ses premiers tours de roue.
Bon, bah, suspense alors, on va voir si ça démarre.
Voilà, la vieille dame commence ses premiers tours de roue.
Excellent.
Oh ouais, ferme.
Ah, c'est génial.
Elle roule. Fantastique. Après 10 ans d'efforts, voilà la récompense.
Et ils sont émus, vous le verrez ce soir donc sur France 5 dans ce documentaire avec les maîtres du rail. Les questions des auditeurs pour vous justement, Mathieu Barraud, Philippe Hérisset, c'est Joachim qui demande: est-ce que la limitation actuelle de la vitesse des trains est surtout due au caténaire et donc à l'alimentation en électricité, Philippe Hérisset?
Non, il s'agit d'un optimum technico-économique. Par exemple, lorsque l'on a mis en service en 1993 la ligne Nord-Europe entre Paris et Lille. Tout à fait. Au départ, le matériel roulant était prévu pour rouler à 320 km/h. La signalisation de la ligne était également prévue pour rouler à 320 km/h. Le tracé de la ligne, bien évidemment, également.
Donc on aurait fait quoi, Paris-Lille en 50 minutes
On aurait gagné extrêmement peu de temps. Ça jouait à quelques minutes. Et par contre, ce qu'il faut voir, c'est que les usures que l'on engendre, à la fois sur le matériel et les infrastructures, elles ne sont pas proportionnelles, en fait, à la vitesse. Et donc, c'est réellement cette question d'optimum technico-économique qui finalement conduit à rouler sur les lignes à grande vitesse actuellement en France à 320 km/h. Cela dit, on a bien vu lors des différents records, que ce soit le 515,3 km/h en 1990, que ce soit le 574,8 km/h en 2007, que là encore, jamais il y a eu arrachement de caténaire.
Ouais. Sauf qu'il y a de l'usure, et que l'usure, ça coûte très cher, évidemment.
Oui, il y a de l'usure, et puis il y a aussi de la consommation de puissance. C'est-à-dire, quand vous doublez la vitesse, comme quand vous allez vite, en gros, c'est surtout les frottements aérodynamiques qui comptent, vous octuplez la puissance nécessaire. Donc, il y a une histoire de rentabilité qui est très vite... Le calcul est vite fait, hein. 300 km/h en France, je pense que même dans 30-40 ans, on ira encore à 300 km/h, parce que c'est un peu l'optimal en termes d'économie.
Juste pour compléter ce que disait Mathieu, hein, il faut voir que les efforts aérodynamiques, hein, qui deviennent prépondérants à grande vitesse, qui croissent comme le carré de la vitesse, donc ça monte très très vite. Quant à la puissance à embarquer sur le train, elle croît comme le cube de la vitesse. Donc en fait, ça monte très 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 vite.
Jean nous dit le réseau ferroviaire était un modèle d'arrosage du territoire jusqu'à la démocratisation de l'automobile dans les années 30. Depuis, 30 000 km de voies ferrées auraient été démantelées. Est-ce que l'automobile a finalement tué le chemin de fer? On n'a pas l'impression quand même, Mathieu Barraud. Hein.
Alors, ce qui est sûr, c'est que l'infrastructure ferroviaire coûte très cher. C'est un investissement que l'on fait sur le siècle ou sur le 50 ans. Elle est très rentable à longue durée, mais pour les petits trajets terminaux, c'est clair que la voiture, on a du mal à amener une voie de chemin de fer devant chaque maison, quoi. C'est pas possible. Donc le train est très bien pour aller de centre-ville à centre-ville ou de zone urbaine à zone urbaine, et il est moins bien adapté, effectivement, pour les petits réseaux régionaux. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que, comme toujours dans l'ingénierie, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais système, il y a toujours un système adapté à un usage. Le train est parfait pour aller d'une ville à une autre ou pour déplacer beaucoup de voyageurs.
Allez, dans un instant, évidemment, on va parler de l'arrivée du TGV sur notre territoire et puis les projets aussi de train du futur. Mais quand même un mot sur les États-Unis parce qu'il y a une large part du documentaire qui y est consacrée et on voit à quel point d'ailleurs l'arrivée du chemin de fer a construit au fond la nation américaine aussi. Hein.
Il faut imaginer que le chemin de fer aux États-Unis, c'est pendant la guerre de sécession à peu près que ça se fait. Donc c'est au moment où les États-Unis se déchirent qu'il y a des décisions qui sont prises quand même malgré tout pour faciliter la création d'un chemin de fer qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. C'est quelque chose que moi je l'avais complètement oublié, sauf que nous Français on a la chance d'avoir lu Lucky Luke et qu'on a cette image qui est imprimée dans notre tête de ces deux locomotives face à face.
Absolument.
Voilà, qui est une image hyper célèbre aux États-Unis et j'ai pris conscience en interviewant un mec remarquable qui s'appelle Phil Sexton de l'importance que ça a pour la nation américaine.
On voit la photo d'ailleurs.
Qui est très très belle, mais c'est marrant parce que quand on la voit, on pense tout de suite à Lucky Luke. Ouais. En plus, c'est ces magnifiques CP Huntington, ces belles locomotives peintes de couleurs bariolées qui se rencontrent. Et il y a ce geste très symbolique des mécaniciens de chaque locomotive qui tiennent dans leurs mains des bouteilles, qu'on dirait des bouteilles de champagne. Mais non, ce sont les eaux du Pacifique et les eaux de l'Atlantique qui vont casser pour une sorte de rythme baptismal pour créer la naissance de la nation américaine. Et ça a été vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Atlantique était relié au Pacifique par du train, les temps de voyage ont été divisés par 10 hyper rapidement, et ça a créé une unité. Et nous, on a oublié ça en France, mais le train, ça impose une heure commune à tout le monde.
Ouais.
Parce que vous pouvez pas réguler un réseau ferré si vous n'avez pas la même heure. Donc avant, il y avait l'heure du clocher local, mais dès que vous avez du train, l'heure est commune. Donc ça impose en fait un rythme de vie commun à tout le monde. C'est quelque chose de fondamental pour les sociétés.
Sauf que le train, le chemin de fer aux États-Unis, a été fait au prix de vie, évidemment, hein, parce que ce sont des milliers d'ouvriers qui ont travaillé dans des conditions épouvantables, dans des conditions aussi de dangerosité, parce que les villages qui étaient traversés étaient aussi des villages dangereux. Et donc ça a été une saga épouvantable à ce niveau-là quand même, hein.
Alors oui, et on découvre que, comme dans Lucky Luke, ce sont les Chinois qui ont fait les voies de chemin de fer, en particulier les tunnels dans les chaînes de montagneuses américaines qui sont en granit très dur. C'était des conditions tellement dures que même les Irlandais immigrés à l'époque ne voulaient plus travailler sur ces chemins de fer et qu'ils ont été obligés d'importer de la main-d'œuvre chinoise.
Ouais.
Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les chantiers étaient très dur, très dangereux, mais finalement, c'était ce qu'il y avait à côté des chantiers qui faisaient plus de morts, c'est-à-dire les Hell City, les cités de l'enfer qui suivaient le train qui avançait, où il y avait toutes sortes de meurtres, c'était assez terrible.
C'est des prouesses technologiques hallucinantes quand même, Philippe Hérissier, quand on voit le travail qui a été fait de percement justement des montagnes, par exemple, hein.
Ah, tout à fait. C'est un travail qui se poursuit actuellement. Si l'on regarde ce que font les Suisses actuellement, notamment en construisant systématiquement des tunnels de base, là où n'existaient que des tunnels de fait, qui nécessitaient en fait une longue approche avec des voies qui forcément étaient assez sinueuses pour épouser le tracé de la montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin de fer n'aime pas les déclivités. Et donc, dès qu'une déclivité se présente, où l'on passe avec un viaduc ou l'on passe avec un tunnel. Cela dit, on a sur le TGV Sud-Est des déclivités très importantes sur la ligne à grande vitesse qui sont de 35 pour 1000, 3,5%. Ça paraît rien du tout sur un réseau routier, mais pour le ferroviaire, c'est déjà très élevé.
Et dans un instant, justement, on fera écouter aux auditeurs le son du tunnel ferroviaire du Gotthard. C'est le tunnel ferroviaire le plus long du monde, avec ce son qui ressemble à celui d'un orgue. C'est tout à fait particulier. Vous avez pu assister justement au passage du train à ce moment-là. On va écouter ce document dans quelques minutes. On se retrouve dans un instant avec d'autres messages pour vous sur le site de La Tête au Carré.
Est-ce que c'est mon vieux Joseph que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah et rien ne serait arrivé. Tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie.
Georges Moustaki avec Joseph.
La Tête au Carré.
Mathieu Barraud, Philippe Hérissé, ingénieur tous les deux, vous les verrez dans ce documentaire ce soir, Les Maîtres du Rail, c'est à 20h50 sur France 5 dans la case Science Grand Format, Gabriel Martiarena et Emmanuel Sudre pour la réalisation de ce film. Beaucoup de questions des auditeurs, mais avant cela, j'aimerais que nous écoutions l'orgue justement du Gotthard, hein, ce tunnel, donc le tunnel suisse, hein, puisque ce...
Le plus long instrument avant de terre.
Bon, on va l'écouter terre. Tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne lorsqu'on se trouve justement dans ce tunnel à la chaleur tropicale.
Ah. Ah. Ça, c'est dément, ça.
Oui. C'est presque lugubre.
Carrément. Ça donne une ambiance, là, dans le...
Donc là, le train, en circulant dans le tunnel, il pousse une colonne d'air devant lui. Et cette colonne d'air crée des surpressions à certains endroits qui génèrent des courants d'air. Et c'est comme dans un tube d'orgue, effectivement.
Ah ouais, c'est ça, on est à l'intérieur du tube de l'orgue. Là.
On est à l'intérieur du tube de l'orgue.
Ah, une chose étonnante, là on entend très bien le son, mais dans le train on n'entend rien du tout.
Le passager se trouve dans le train qui est lui pressurisé et insonorisé, donc il n'a aucune chance d'entendre les bruits du tunnel. Voilà, on va l'écouter passer.
Ambiance fantomatique, Mathieu Barraud. Et on entend le train arriver.
Et on entend le train
Donc c'est le bruit qui précède l'arrivée du train dans
qui
le tunnel.
Qui précède et qui succède au passage du train. Ouais. Si on l'entend un petit peu après aussi.
Et dès qu'il est sorti du tunnel...
Ah, ça s'arrête net.
Le bruit s'arrête net, ouais. Évidemment. Et tout ça à vivre dans une chaleur. Vous disiez, il fait 50 degrés sous le tunnel à ce moment-là.
Il faisait entre 40 et 50 degrés. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a, je ne sais plus quelle altitude, presque 2000 mètres de roche au-dessus qui forme un isolant extraordinaire. Et donc, c'est vraiment la chaleur de la terre que l'on ressent.
Ouais. Philippe Hérissé, c'est un ouvrage d'art absolument hallucinant quand même, ce tunnel du Saint-Gothard.
C'est le plus grand tunnel du monde, Et il est sûr qu'un ouvrage comme celui-là, on n'en construira pas des quantités.
Allez, beaucoup de questions des auditeurs. Jean-Michel qui nous dit, on parle toujours des trains de voyageurs, mais quel est l'avenir du fret ferroviaire? Est-ce que ça n'est pas plus prometteur dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, Mathieu Barraud?
Si, c'est intéressant, mais c'est toujours une question de rentabilité et coût-investissement. C'est clair que des camions qui franchissent, enfin qui traversent toute la France, ça serait mieux de les mettre sur du fret ferroviaire. Ça serait beaucoup plus économique, mais ça demande une infrastructure, une politique d'État, en fait, hein, tout simplement.
Ouais, et justement, Romain qui nous dit, c'est vraiment dommage que le chemin de fer en France n'ait pas été plus développé, notamment pour le fret et le transport régional et local. Cela désengorgerait la route des poids lourds et redynamiserait les campagnes qui pourraient être réinvesties par les gens qui travaillent en ville. Philippe Hérissé.
Ah, je dirais que ce sont des choix sociétaux, des choix politiques. Il est vrai que si l'on se rend chez nos voisins suisses, on a un maillage du réseau ferroviaire qui est beaucoup plus important que le nôtre. Alors évidemment, la Suisse n'est pas la France, les échelles ne sont pas les mêmes, mais le chemin de fer a énormément, énormément de potentiel. Il suffit d'y recourir.
Philippe nous dit, quel bonheur ce jeudi après-midi dans une petite gare de Normandie. Je vais prendre le train et je tombe sur cette beauté, la Pacifique, une si belle machine et des gueules bien noires avec les yeux fiers et heureux. C'est un très beau moment. Alors on peut le voir justement, cette locomotive, on peut la voir.
Oui, en fait c'est une association qui la met en œuvre avec des gens formidables et sympathiques comme tout. Et on peut même aller participer, on peut même s'inscrire et mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est ça qui est génial en fait, c'est de toucher la mécanique.
Dites donc, il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre documentaire, hein. Il n'y a que des mecs, hein. C'est incroyable. Le chemin de fer, c'est un truc de mec ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Alors moi, je suis prof de mécanique et on travaille à l'UT Cachan à essayer de changer ça, d'inciter les filles.
Il y a du boulot apparemment.
Oui. Cette année, on a quand même pas mal de filles à l'UT et c'est bien. Les filles sont très bien dans les carrières d'ingénieurs. Elles sont hyper rigoureuses et c'est bizarre parce que quand elles viennent, elles réussissent très bien. Et donc, ça m'énerve, moi, en tant que prof, de voir si peu, tant de garçons et si peu de filles dans ces milieux techniques.
L'arrivée du TGV, Philippe Hérissé, 1981. Alors ça, bon, c'est une nouvelle page qui se tourne quand même, mais toujours sur des bases technologiques, finalement, qui ont fait leur preuve depuis longtemps. Hein.
Tout à fait.
C'est ça qui est étonnant.
Alors, les premiers trains à grande vitesse, en toute rigueur, n'ont pas roulé chez nous. Ils ont roulé au Japon en 1964.
C'est quoi? C'est le Shinkansen?
Le Shinkansen, exactement. La ligne du Tokaido entre Tokyo et Osaka, où on roulait donc ces trains à partir de 1964 à la vitesse maximale de 210 km/h à l'époque.
Inspiré par le Martin Pêcheur, hein, je crois, hein, justement, le nez de la locomotive.
Alors ça, c'est venu un petit peu après, ou pour des raisons d'ordre aérodynamique, effectivement, on a cherché des formes en bec de canard qui permettaient d'améliorer notamment le croisement en tunnel. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en 1964, si les Japonais roulaient à 210 km/h sur leur nouvelle ligne du Tokaido, en France, sur une ligne qui avait pratiquement un siècle, qui était Paris-Toulouse, 3 ans plus tard, on roulait quand même tous les jours à 200 km/h, c'était le fameux Capitole. Alors, les Japonais, eux, étaient un petit peu handicapés par le fait que leur réseau classique était à un écartement qui n'était pas l'écartement dit normal, celui qui existe dans 60% des cas à travers le monde, hein, la voie de 1435 mm, et eux, en fait...
Ça, c'est une norme internationale?
C'est une norme internationale, tout à fait, et donc c'est l'écartement de voie le plus répandu dans le monde, et par contre, le réseau classique, chez eux, était à l'écartement métrique dit anglais, qui est 1067 mm, et donc, en fait, ils ne pouvaient pas faire ce que nous avons fait après, et qui était quelque part, l'idée de génie du TGV, c'est de pouvoir sortir, sortir des infrastructures à grande vitesse spécialement conçues pour rouler très très vite, hein, et là il fallait bien les construire ex nihilo, mais pouvoir après irriguer l'ensemble du réseau classique de façon à éviter les correspondances, puisque qu'est-ce que n'aiment pas les voyageurs, bien entendu, c'est de devoir changer de train à un moment donné pour poursuivre leur voyage. Alors, notre TGV, il a une particularité, c'est que c'est un train articulé dans un train conventionnel. Chaque voiture repose sur 2 bogies et en fait dans...
Les bogies, qu'est-ce que c'est?
Alors les bogies, c'est un ensemble de 2 essieux finalement, qui est mobile, qui peut tourner autour de la voiture, et vous en avez 2 normalement dans un train conventionnel, sous chaque voiture, hein, de part et d'autre de la voiture. Et dans le train articulé, en fait, les bogies sont disposées entre les voitures. C'est-à-dire que sur un même bogie repose deux voitures adjacentes. Alors, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça diminue la part de la résistance à l'avancement du roulement, puisque pour une même longueur de train, vous allez avoir moins de bogies. Et la deuxième, c'est que ça diminue aussi la part de la résistance à l'avancement due à l'aérodynamique, tout simplement parce que vous pouvez surbaisser en fait les voitures entre les bogies et donc avoir une hauteur du toit du train inférieure. Et donc, en fait, ça permet, avec moins d'énergie, moins de puissance embarquée, de pouvoir rouler très vite. Ça a même aussi d'autres avantages. Par exemple, on éloigne les voyageurs de la source principale de bruit et de vibration sur des vitesses inférieures à 200 km/h. On a une meilleure sécurité malheureusement, il devait y avoir un déraillement, puisque les voitures sont tenues les unes par rapport aux autres. Et puis, très gros avantage, ça se marie à merveille avec la solution du train à deux niveaux, le fameux duplex, qui est la grande réussite, ferroviaire française en matière de grande vitesse.
Alors Mathieu Barou, on va laisser les téléspectateurs découvrir justement toute l'histoire du TGV ce soir, parce que j'aimerais qu'on dise un mot quand même de l'aérotrain. Alors ça, c'est vraiment une histoire qui est très touchante, je trouve, parce que c'est un train qu'on a tous un petit peu en tête quand on voit justement sa silhouette et son profil, avec ce rail central qui est tout à fait particulier, qui aurait pu être le train de notre pays. Et puis finalement, il y a eu une histoire assez radicale quand même, qui l'a éliminé tout de suite de la concurrence.
En fait, je dirais que Jean Bertin, donc le concepteur de ce train révolutionnaire, donc c'est toujours pareil. On a quelque chose qui marche très bien, une locomotive électrique sur des roues en acier, sur du rail en acier. Et puis, il y a des ingénieurs qui se disent, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, Jean Bertin propose une solution différente. Et complémentaire, j'insiste sur complémentaire. Ouais. Jean Bertin prétendait pas remplacer tous les trains en France par des aérotrains, mais il proposait un service de navette rapide sur coussin d'air. Donc c'est cette célèbre voie qu'on voit entre Paris et Orléans, dont il reste des traces archéologiques, on va dire.
Les plans sont très beaux, parce que vous avez tourné dessus. Êtes en plein champ de betteraves, je crois.
D'ailleurs, le fils de Jean Bertin nous dit que c'était le moyen le plus rapide pour aller d'un champ de patates à un champ de betteraves. C'est rigolo comme expression. Mais Jean Bertin proposait donc d'utiliser le coussin d'air. Et il y a une communauté de solutions entre le coussin d'air et le roule-rail. C'est-à-dire que c'est deux solutions qui sont très peu énergivores et qui sont très rustiques. J'insiste sur ça, en fait. Le train, c'est des solutions hyper rustiques et hyper efficaces. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, les choix politiques ont fait que...
C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a donné le coup de grâce.
Ça. Mais c'est des solutions qui sont en partie reprises par Elon Musk, puisque c'est un peu la même idée, c'est-à-dire on supprime le contact roue-rail au profit d'un contact magnétique et on supprime l'atmosphère.
Justement, cette histoire, on va également la découvrir ce soir. Deux questions pour terminer. Jean-Marc qui dit, est-ce que l'hyperloop de Elon Musk peut vraiment remplacer le chemin de fer traditionnel? Philippe Hérisset, en quelques mots.
Je pense que ce sera très difficile, parce que c'est un problème de compatibilité avec l'existant. En fait, si on prend un système comme le maglev, le train à sustentation électrodynamique, ou si on prend effectivement l'hyperloop, ça veut dire quand même qu'on est obligé de tout recommencer à zéro. Il n'y a aucune possibilité, en fait, de pouvoir réutiliser ce qui existe déjà.
Et le train hydrogène, demande Daniel pour terminer.
C'est pareil, le côté génial de l'électricité, c'est de ne pas embarquer le carburant à bord et d'avoir un rendement global de la chaîne qui est excellent. Les locomotives électriques ont multiplié par 10 le rendement par rapport aux locomotives à vapeur. Donc ça va être très difficile. C'est comme je rejoins Philippe Hérisset là-dessus, il y a un rapport coût-investissement qui est très difficile à mettre en œuvre.
Merci à tous les deux. On vous retrouve donc ce soir dans ce documentaire Les Maîtres du Rail, tour du monde justement de la grande saga du chemin de fer. C'est sur France 5, 20h50 dans la case Science Grand Format. Merci à Pierre Lemire qui était à la technique aujourd'hui.